Je lirai les passages des Romains 12, des versets 1 jusqu'à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce en proportion de la foi, et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, et que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie.
Bonjour, comme toujours, ça me fait bien plaisir de me retrouver parmi vous. Après, je crois déjà 12 ans que j'ai quitté l'église de Mérin, les années filent. Voilà, bien vivre dans notre société, c'est se laisser guider par l'émotion et le plaisir, n'est-ce pas? On participe à un événement seulement s'il y a du fun. Et puis on décide au dernier moment pour être sûr que ça corresponde au désir de l'instant présent. On consomme selon les pulsions du moment. En sport, on expérimente l'extrême pour tester plus de sensations. Bref, tout est fait pour qu'on ait le maximum de plaisir et d'émotion. Faut l'avouer, on est en pleine réaction contre le siècle des Lumières où la raison humaine, l'intelligence, avait été proclamée comme des dieux. Alors aujourd'hui, ben voilà, le dieu du plaisir a remplacé le dieu de la raison. Mais il faut avouer que l'un comme l'autre apporte finalement beaucoup de désillusions. Vous me direz, mais quel est le lien avec cette lecture de Romains 12? Eh bien justement, Romains 12 nous invite à vivre des émotions fortes avec une intelligence renouvelée. Au verset 1, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Alors vous me direz que ça commence mal. Offrir son corps en sacrifice, mais c'est vraiment pas fun du tout. Pourtant, il y a de l'émotion dans ce verset. « À cause de cette immense bonté de Dieu. » Dieu, ce n'est pas juste un concept intellectuel, froid et impersonnel, non. En nous voyant, Dieu est saisi, il est pris aux tripes, tellement il nous aime. Et dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul a longuement décrit tous les problèmes causés par le mal. Et puis nous le voyons tous les jours, écrasés par nos fautes, nous sommes culpabilisés, tous atteints par le mal d'une façon ou d'une autre. Et puis, nous n'aurions plus aucun espoir si Dieu n'avait pas été saisi de compassion envers nous, s'il n'avait pas envoyé son Fils nous délivrer de tous nos esclavages, et puis s'il n'avait pas implanté en nous cette vie nouvelle par son Esprit qui nous rend libres d'aimer. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de croire. Oui, Dieu a payé le prix fort. Il a tout fait pour nous sauver, à cause de son amour. À cause de cette immense bonté de Dieu, Voilà le contexte, tout l'arrière-plan, on pourrait dire, avec lequel on peut maintenant lire la suite du verset. À cause de cette immense bonté de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Il y a quelque chose de très bizarre dans ce verset. Quand le peuple d'Israël, parce que le sacrifice, ça fait évidemment penser au peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël offrait un sacrifice, il commençait par égorger la bête. Ils n'ont jamais offert de sacrifice vivant. Ils ne se sont jamais non plus sacrifiés eux-mêmes. Il s'agissait toujours d'animaux, bien sûr. Le seul cas où Dieu semble demander un sacrifice humain, c'est Isaac, mais bon, vous connaissez l'histoire. Hein. Au moment où Abraham va trancher la gorge d'Isaac, eh bien voilà que l'ange de l'Éternel l'arrête. Et à la place d'Isaac, eh bien, il donne un bélier. L'Éternel n'a jamais demandé qu'on se sacrifie pour lui, et je dirais même que c'est une abomination à ses yeux. Parce que Dieu ne veut pas notre mort, mais bien notre vie. Et il peut y avoir beaucoup d'orgueil derrière un sacrifice. Qui suis-je pour me sacrifier? De quel droit puis-je toucher à ma vie? La vie ne m'appartient pas, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la reprend. J'ai été frappée il y a quelque temps en regardant le film de retraçant l'histoire de Gandhi. Gandhi, vous le savez, qui a lutté vraiment avec acharnement en faveur de la non-violence, contre la violence en Inde. Alors bien sûr, dans cette lutte acharnée, Gandhi force le respect. Il s'est engagé sans compter pour son pays. Pourtant, quand on le voit mener plusieurs grèves de la faim pour forcer les différentes factions politico-religieuses à dialoguer entre elles plutôt qu'à prendre les armes, ça frise la manipulation. Même pour la bonne cause, qui sommes-nous pour manipuler les autres en jouant avec notre propre vie? En menaçant de se sacrifier par ces grèves de la faim, Gandhi attire inévitablement le regard sur lui ou plutôt sur ses idées. Non, l'homme qui se sacrifie frise le fanatisme. Il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Au contraire, il risque de faire de l'ombre sur le seul sacrifice qui procure la vie, celui de Jésus-Christ mourant sur la croix, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Seigneur de la vie. Lui seul pouvait décider de donner sa vie et de la reprendre. Alors ne nous prenons pas pour Dieu en cherchant à nous sacrifier nous-mêmes, même si c'est pour une bonne cause, entre guillemets. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, le corps est vivant, mais il y a quand même l'idée de sacrifice. C'est-à-dire qu'on va à la mort. Être vivant tout en allant à la mort, c'est vraiment bizarre. Alors comment comprendre? Eh bien, Paul ne dit pas « offrez vos vies ». Il dit « offrez vos corps », c'est très différent. Notre corps est poussière et il va retourner à la poussière. Par contre, nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous. Cette vie nouvelle qui grandit de jour en jour et qui est éternelle. Impossible donc de faire mourir cette vie-là puisqu'elle est éternelle. Lorsque je meurs, eh bien, mon âme, ma vie nouvelle en Christ, est auprès de Dieu. Elle ne cesse pas d'exister. Et on trouve un texte dans Apocalypse 6 qui nous parle justement de ces âmes, de ces chrétiens qui sont morts, mais qui sont auprès du Seigneur, qui sont sous l'autel. Leur vie est auprès de Dieu. Et voilà qu'ils crient, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre ?» On verra que la mort, le dernier ennemi, aura été vaincue. Ces âmes sous l'autel sont en quelque sorte des vies sans corps, hein, sont cet outil qu'est le corps humain qui nous permet d'agir et de penser. Alors revenons à Romains 12. Lorsque Paul nous dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant, il sait très bien que notre corps va mourir. mais que nous avons déjà reçu la vie éternelle. Les attaques du mal sur notre corps ne devraient donc pas nous surprendre. La maladie ou la persécution peuvent détruire notre corps, oui, et au bout du compte, notre corps sera détruit. Mais personne ne peut détruire notre vie avec Dieu. Paul l'a déjà proclamé au chapitre 8, dans ce verset bien connu qui nous a été lu tout à l'heure, où Paul dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Un jour, j'ai reçu ce verset alors que je venais d'être vraiment méchamment accusée. Et j'étais vraiment démolie. Et en priant, le Seigneur m'a rappelé ce verset. Quel réconfort! Lorsque, écorchée vive par toute cette haine que j'avais reçue en pleine figure, j'ai tout d'un coup senti cet amour de Dieu pour moi. Rien, ni même la haine de ceux qui m'accusaient, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Quelle émotion! J'en ai pleuré ce jour-là. Oui, la haine détruit et menace parfois de nous démolir, mais l'amour de Dieu pour nous demeure éternellement. Rien ne peut nous en séparer. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors attention, ce n'est pas parce que notre corps va mourir qu'on peut en faire n'importe quoi. Bien au contraire. Notre corps est un instrument pour manifester cet amour que nous avons reçu de Dieu. Puis Dieu est vraiment très fort. Il arrive même à se glorifier au travers d'un corps qui va mourir. Vous vous souvenez certainement des prières de Francis Dufour. Son corps était si malade, et pourtant, ses prières nous ont marqués. Il priait avec tant de ferveur, de paix, de patience, de confiance. Oui, Dieu s'est glorifié au travers du corps malade de Francis, et on pourrait citer bien d'autres exemples de vie, de foi. Notre corps est un peu comme une bougie. Lorsque Dieu y met sa lumière, eh bien, cette lumière éternelle brille de mille feux. Mais du coup, la cire fond et se consume. La présence de Dieu dans notre corps le rend saint, c'est-à-dire complètement consacré à Dieu. Et alors nous vivons cette terrible tension entre ce corps sanctifié par la présence de Dieu d'un côté et pourtant atteint par le mal au point d'en mourir. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne vais pas faire n'importe quoi de mon corps. Et là, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'en prends soin d'une manière qui plaît à Dieu? Est-ce que je l'habille? Est-ce que je l'utilise pour rendre toute la gloire à Dieu? Offrez vos corps, ce sera là, de votre part, un culte spirituel. On pourrait traduire aussi un culte raisonnable. Ça dépend des versions, hein. Parce que le mot grec, c'est logikos, logique. Un culte logique, on pourrait dire. Alors c'est quoi un culte logique ou un service logique? Eh bien, c'est simplement un culte conforme à la volonté de Dieu, conforme à sa parole, conforme à son esprit. C'est une consécration totale pour servir le Seigneur, corps et âme, on pourrait dire. Ce culte spirituel ou raisonnable, eh bien, ça passe autant par les sentiments et les émotions que par une nouvelle intelligence et une nouvelle compréhension de la volonté de Dieu pour nous. Il n'y a pas de scission entre notre intelligence et nos émotions. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Là encore, on retrouve tout un vocabulaire de la pensée, de l'intelligence, le renouvellement de la pensée pour discerner la volonté de Dieu. Au chapitre 8, l'apôtre Paul a expliqué la libération que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies. C'est l'Esprit qui nous transforme de l'intérieur pour nous amener à penser de manière juste et bonne. Personne ne peut se renouveler lui-même. C'est pourquoi Paul dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Dans cette opération, il y a quelque chose de passif. Il nous suffit de dire oui au Seigneur, comme Johann l'a fait ce matin. Oui au Seigneur, et puis le laisser nous transformer. Alors invitons l'Esprit de Dieu à agir en nous. Puis il nous offre ce cadeau extraordinaire. Une intelligence apte à comprendre, à percevoir le plan de Dieu. Mais qui sommes-nous pour que le Dieu Tout-Puissant nous révèle sa volonté? C'est merveilleux. Dieu nous offre aussi cette capacité à faire le bien en toutes circonstances. Et puis, il nous assure que nous sommes son plaisir. C'est fabuleux. Dire que ma petite vie, si insignifiante, réjouit le cœur du Père. Franchement, Dieu n'a pas besoin de moi pour être heureux. Il n'a pas besoin de mon amour si faible pour se sentir aimé. Il est amour. Oui, quelle émotion, quel plaisir, quel bonheur de se savoir aimé de Dieu. Alors ce nouveau mode de pensée, cette nouvelle relation avec Dieu, cette relation d'amour, change évidemment ma relation avec Dieu, mais aussi avec moi-même et avec les autres. Et c'est ce que dit Paul au verset 3. Littéralement, Paul dit de ne pas se penser au-dessus de ce qu'il faut penser, c'est-à-dire de ne pas se mettre au-dessus des autres. Ne pas se penser au-dessus de ce qu'il faut penser, mais de penser afin de penser avec sagesse. Là encore, on retrouve tout un vocabulaire de la pensée. Se penser au même niveau que les autres, sachant que nous avons tous la même valeur devant Dieu. Ça change complètement ma vision du monde. Le chômeur ou le haut manager ont la même valeur que moi aux yeux de Dieu. La personne handicapée, faible, malade, fragile, a la même valeur que moi aux yeux de Dieu. Ça signifie aussi qu'il est aussi grave de commettre un crime contre un Africain que contre un Américain. Oui, ça change complètement ma vision du monde. Dans les versets 4 à 8, Paul poursuit sur la même lancée. Lorsque nous sommes transformés par l'Esprit, eh bien, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nos relations sont si fortes que nous sommes membres les uns des autres. Alors ça, c'est un mode de pensée, mais complètement étranger au monde actuel. Aujourd'hui, c'est le chacun pour soi qui prédomine. Chacun court pour gagner plus d'argent, pour se faire une place au soleil. Le rêve, c'est de devenir un people qui peut tout se payer, faire tout ce qui lui plaît. Quel mensonge! Parce que la vraie liberté, c'est précisément d'être unis les uns aux autres, dans la solidarité, l'entraide, le partage, dans une vraie relation qui n'est pas faussée par l'argent et les jeux de pouvoir. C'est ça la communion, être membres les uns des autres, avec Jésus-Christ comme tête, comme chef, bien sûr. Au verset 5, Paul dit que chacun pour soi, nous sommes membres les uns des autres. Chacun pour soi, nous sommes. Chacun est important, chacun a sa responsabilité, chacun a des dons différents. L'individu n'est pas nié au profit du groupe comme dans le communisme, non. Chacun existe et a son identité. Mais il n'y a pas de chacun pour soi égoïste ou de tout pour moi. Au contraire, ce que je suis, ce que j'ai reçu de Dieu, eh bien, c'est pour le mettre au service des autres et bien sûr pour en rendre toute la gloire à Dieu. Lisez les versets 9 à 21 du même chapitre 12. Ce sont les conséquences pratiques de ce renouvellement par l'Esprit. À cause de cet immense amour de Dieu qui nous transforme depuis l'intérieur, nous trouvons la force de pratiquer le bien envers tous, y compris envers nos ennemis. Et là, notre corps est un outil fabuleux pour manifester l'amour de Dieu dans toutes nos relations, dans toutes nos situations de vie. Alors concrètement, comment est-ce que je vais offrir mon corps en sacrifice vivant? Eh bien, c'est à la fois très simple et très compliqué. très simple, parce que il suffit de laisser l'Esprit de Dieu agir en moi, le laisser me transformer dans toute ma personne, et puis ben, l'Esprit saura susciter au travers de moi toutes sortes de bonnes actions, de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes œuvres, de bons sentiments qui plaisent à Dieu. Alors attention, hein, ces bonnes œuvres, c'est pas pour me comparer aux autres et puis pour me justifier en me disant « Ouais, je suis quand même pas si mal que ça, moi je fais ça, 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 et puis l'autre il fait pas ceci ou cela. » Non, non. Raisonner comme ça, c'est ne rien comprendre à l'amour de Dieu. Ne nous comparons pas les uns aux autres, mais laissons l'Esprit susciter en nous toutes sortes de bonnes œuvres. L'Esprit saura utiliser nos dons, notre personnalité, notre sensibilité, notre intelligence, tout ce que nous sommes, pour nous faire entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et puis ça, en fonction des circonstances de vie que nous avons, nous vivons, en fonction de nos relations, en fonction de tout ce que nous sommes, quoi. L'Esprit est assez créatif pour susciter toutes sortes de bonnes œuvres différentes. Et puis, c'est vrai qu'on peut se réjouir aussi de se dire, bah, tiens, tel frère ou telle sœur en Christ fait telle chose pour le Seigneur, mais ça nous amène à rendre gloire à Dieu de la créativité qu'il développe au travers de ce frère ou de cette sœur. Alors voilà, laisser agir l'Esprit, bah, c'est très simple. Mais c'est aussi très compliqué. Parce que mon corps est sans cesse attiré par le mal, effrayé par toutes les horreurs que je vois dans ce monde, mais aussi par, vous l'avouez, toutes les mauvaises pensées qui peuvent monter de mon cœur, toutes les émotions qui sont en moi. Oui, au chapitre 7 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul exprime cette terrible tension dans laquelle nous sommes tous plongés. Et l'apôtre crie, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette désolation de l'apôtre est suivie d'une phrase merveilleuse ou d'un soupir, on pourrait dire, où l'apôtre dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ, je serai délivré de ce corps de mort. Et puis, la suite du texte, si vous relisez Romains 7 et 8, si vous relisez la suite du texte, eh bien, c'est la vie par l'Esprit. Le seul moyen de plaire à Dieu, laisser l'Esprit agir au travers de nous, nous renouveler, nous transformer. Alors pour terminer, eh bien, je crois qu'on ne peut pas tellement conclure, mais plutôt terminer en restant quelques minutes dans le silence pour inviter l'Esprit de Dieu à entrer dans nos vies, à le laisser renouveler notre pensée, notre intelligence, nos émotions, tout ce que nous sommes. Notre personnalité, afin que nos vies rendent gloire à Dieu. Restons quelques instants dans le silence.